une question, une remarque rapide. Vous avez employé cette expression, le drame de l'hybridité. Ça m'intéresse, ça nous intéresse beaucoup parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a essayé de soulever et qui se soulève de lui-même peut-être dans nos recherches. Et je crois qu'on n'a pas vraiment réussi à pas vraiment trancher. On est un petit peu sur le fil avec ça. Ce dont je veux parler, c'est effectivement l'aspect dramatique, ce qui est très beau là. Je ne sais plus dans quel texte, mais c'est la façon dont le corps se métamorphose et la façon dont l'ego, enfin le personnage, l'ego est spectateur de sa propre transformation. Ça, je trouve ça assez fascinant. Mais malgré tout, il y a quand même cette idée de drame, c'est-à-dire dans contamination, on l'a dit rapidement, mais effectivement une sorte de connotation péjorative, enfin, évidemment l'idée de la destruction, de la mort. Dylan Trigg, qui sera là demain, pourrait parler de l'horreur, définition de ce qu'il appelle la phénoménologie de l'horreur, en fait la façon dont le corps en fait se détache de l'ego. Ce que je voulais dire avec ça, c'est est-ce que on a l'impression que le drame est la seule modalité en fait pour mettre au jour l'unicité du monde, enfin cette absence de frontières. J'ai trouvé ça assez beau qu'à la fin souligner quand même que si on se débarrasse un peu de ces questions peut-être morales, en fait c'est pas si grave. Faut le
dire. Alors en fait c'est un peu de ma faute si c'est apparu comme ça. J'ai insisté beaucoup sur l'aspect dramatique, voire tragique, de ces histoires d'hybridité. Et c'est vrai que c'est la modalité majeure dans les métamorphoses d'Ovid de présentation de l'hybridité. Cela dit, et j'en profite là pour me corriger, pour contrebalancer un petit peu ça, j'ai dit à la fin que c'était un poème heureux qui présentait la beauté du monde. Et c'est vrai, même dans la présentation que fait Ovid de l'hybridité, il y a aussi des hybrides heureux, en fait, dans les métamorphoses d'Ovid. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Ovid a été l'un des premiers, et ça a été un très important dans l'histoire de l'esthétique et dans l'histoire des idées. Il a été l'un des premiers à dire qu'un hybride pouvait être beau. Avant lui, notamment pour tout ce qui est de la réflexion sur la création littéraire, l'hybridité ne peut pas être belle. Par exemple, le poète Horace, qui est un peu antérieur à Ovide, dit qu'un hybride, c'est un monstre. Un hybride littéraire, un hybride esthétique, c'est forcément un monstre. Et Ovide, lui, à travers les métamorphoses, nous dit que l'hybridité peut être belle. Et il y a un passage du livre 12, je crois, qui décrit, alors Ovid est en train de décrire longuement et puis avec ce goût de l'horreur et du sang, qui est très précurseur aussi de l'époque de Néron, de Sénèque, etc., il décrit le combat abominable entre les lapites et les centaures. Et au cœur des dizaines, des centaines de vers qu'il consacre à cet horrible combat, il y a une accalmie qui est représentée par la description qu'il fait d'un couple de centaures qui s'appelle Silar et Ilonomé. Et Silar et Ilonomé, ils sont beaux. Et Ovid s'arrête un instant au milieu du carnage pour nous décrire la manière dont ces deux hybrides et ce couple d'hybrides représentent une beauté complètement inédite, complètement hors norme, mais qui est une véritable beauté. Ça incarne absolument toute son esthétique. Et puis après, il se fait le plaisir de nous montrer la mort de Silar et Ilonomé, qui vont être massacrés comme tous les autres. Mais voilà, donc, il faut le dire, ça, que l'hybridité pour Ovid fait foncièrement, organiquement partie de la beauté du monde.
Peut-être juste rebondir sur ce que tu disais, Julien, ce que vous disiez, Hélène. En effet, c'est des drames de l'hybridité, de l'impureté, mais moi je trouve aussi que dans un certain nombre des descriptions que vous avez sélectionnées ici, il y a aussi pas mal de sensualité. Dans ces descriptions des corps qui se transforment, même sous un aspect plutôt dramatique ou qui va vers une contamination plutôt néfaste.
Et, absolument.
Bon, c'est juste une remarque comme ça, oui, mais ouais. C'est assez palpable, je trouve. Et par rapport aux passions que vous évoquez aussi, il y a probablement quelque chose de turpitude du désir, ou je ne sais pas, si c'est quelque chose qui est
Oui, il y a une sexualité très, très forte dans l'intégralité des Métamorphoses. Toutes les premières œuvres d'Ovide sont des œuvres amoureuses, des œuvres érotiques, et c'est présent aussi dans les Métamorphoses, et un certain nombre de scènes de Métamorphoses sont des scènes sexuelles, directement ou indirectement. Pensez par exemple, peut-être que celui-là, vous le connaissez bien, au mythe de Pygmalion. Pygmalion, amoureux de la statue d'ivoire qu'il a sculptée parce qu'il était dégoûté des femmes réelles, hein, c'est ça le point de départ de l'histoire, et il tombe fou amoureux de cette statue, et cet amour conjugué à la piété du sculpteur va faire que la statue va finalement s'animer sous les mains de son créateur dans une scène qui est une scène d'amour. La scène que j'ai citée de Salmacis et Hermaphrodite dont les corps fusionnent, c'est une scène de viol, clairement. Et c'est pour ça qu'elle se termine d'une manière si, si dysphorique, si noire et si amère.
On avait, oui, il y a Sandra Lorenzi qui en a encore le temps.
J'avais juste envie de faire, d'essayer de proposer de faire une petite mise en perspective par rapport à la notion de transfiguration. Je me disais, par rapport à l'évolution de la littérature et de la poésie et de la poésie mystique, on retrouve là plutôt, on perd un peu ce mot de métamorphose à travers les siècles pour arriver au Moyen Âge, ou plutôt à la notion de transfiguration. Et je me disais en t'écoutant que à travers les métamorphoses, il n'y a pas ce rapport à la transcendance et à la forme de justice comme ça transcendantale qui pourrait arriver. Et c'est vrai qu'il y a, je sais pas, c'est une question, mais dans le rapport à la transfiguration, il y a toujours cette notion comme ça de justice divine qui vient aussi. Et c'est vrai que là, on a l'impression que les personnages sont seuls aussi à vivre ça. Mais en même temps, d'un point de vue politique, je trouve que ça leur donne beaucoup de liberté justement. Et c'est ça qui est beau, je trouve, parce que j'ai l'impression que c'est aussi une forme de transfiguration qui libère la figure, justement, et qui met en transe et en connexion tout ça, quoi. Donc je voulais juste faire un petit parallèle par rapport à cette notion-là qu'on retrouve plus tard, mais qu'on pourrait aussi rapprocher de ça aussi d'un point de vue poétique et aussi politique.
Oui, c'est très intéressant. Alors, la justice divine, elle est très présente dans les métamorphoses, mais Ovide laisse très souvent, voire toujours entendre qu'elle est peut-être injuste. Enfin, que voilà. Puis derrière, on a pu reconnaître Auguste, on a pu reconnaître la sphère du pouvoir, etc. Et il y a toujours ce basculement possible entre la justice et l'injustice de la part des dieux. En revanche, l'idée de transfiguration, alors le terme est peut-être anachronique par rapport à Ovide, mais bon, c'est un terme latin après tout, donc ça va. Mais elle est présente en ce sens que la métamorphose est très souvent une accession de l'être à sa part la meilleure, finalement, à une version épurée, supérieure de lui-même. Alors c'est particulièrement le cas dans les récits d'apothéose, où les personnages deviennent dieux, constellations, etc. Mais on peut le voir dans un certain nombre de récits, peut-être même d'une certaine manière dans tous. Il y a une sorte de phénomène d'épuration, de purification de l'être qui va vers le noyau de son identité. Et ça, c'est peut-être une forme de transfiguration qui aboutit finalement au dernier texte que je citais, c'est-à-dire la métamorphose du poète lui-même, l'apothéose du poète lui-même qui dit je vais vivre éternellement dans la meilleure partie de moi, c'est-à-dire mon œuvre. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion d'Ovide sur cette transformation de soi en soi, en la meilleure part de soi.
Alors, une minute.
Une minute. Justement, on parlait de justice et d'éternité. Est-ce qu'il y a une idée de fin du monde chez Ovide ? Est-ce qu'il évoque ça ? Ou est-ce que tout est dans un cycle éternel ?
Non, la vision cyclique du monde, c'est plutôt le discours de Pythagore qui la présente au livre 15. Mais Pythagore n'est pas Ovide. Il y a une distanciation très nette qui se fait entre le philosophe et l'auteur du poème. En revanche, ce qu'on trouve dans les métamorphoses, c'est l'idée que la fin du monde est toujours possible. Enfin, que le monde tend vers ça, vers la fusion, vers le chaos, c'est ce que je disais au tout début. Il y a une possibilité permanente de la destruction, et peut-être de la destruction universelle. Simplement, justement, il introduit le principe de la métamorphose comme une sorte de grand régulateur, de puissance régulatrice de cette tendance, de cette tentation du chaos. Ce qui fait qu'au fond, dans un monde régi par la métamorphose, la fin du monde n'advient pas, puisque le monde s'équilibre.
C'est la fin d'un monde.
Oui,
la fin d'un monde,
oui, il y a aussi cette idée-là qu'il y a peut-être une multiplicité de mondes et que quand un monde prend fin, il y a une autre partie qui prend vie.
Oui, c'est la vie à l'œuvre. C'est pas dire au-delà de la vie, puisque là c'est la vie à l'œuvre. Et c'est un autre monde qui peut s'envisager, mais avec d'autres composantes et d'autres essences. En fait, le texte qui nous touche manifestement tous et je dirais à des endroits qui peuvent être très, très personnels, très intimes même, et qui restent aujourd'hui encore à ce stade éternel, je dirais, comme type de texte. On l'a évoqué tout à l'heure, Hélène, cette dimension plus que jamais actuelle. Et on avait, on va prendre 2-3 minutes de plus, monsieur. C'est la notion de la résonance.
J'avais prévu que tu interviendrais, Nathalie.
Relancer cette balle sur la résonance d'aujourd'hui, parce que à un moment on a même évoqué la manière dont ce texte a refait écho au moment de la Renaissance. Et là, on parle de ce besoin d'écho aujourd'hui, de cette résonance. C'est des moments qui sont particulièrement aigus ou de mutation, dont on parlait tout à l'heure.
C'est un texte qui n'a jamais cessé d'être lu et d'inspirer les auteurs, les artistes, etc. Mais c'est un texte qui ressurgit avec une acuité particulière dans toutes les périodes de crise, de basculement, de doute, etc. Et la période actuelle est particulièrement propice, si je puis dire, à la redécouverte de ce texte-là, parce que c'est un texte qui nous dit qu'il y a un équilibre du monde, que cet équilibre est fragile, mais qu'il existe. C'est ce qu'Ovide appelle la discorse concordia, la concorde discordante. Et c'est un équilibre qui est mouvant, qui doit rester mouvant pour continuer. Il nous dit que si l'homme respecte cet équilibre-là, qui est fondé sur la métamorphose, alors cet équilibre pourra perdurer. Mais il nous dit aussi que cet équilibre est fragile et que La grande résilience du monde peut très bien se passer de l'humanité, d'une certaine manière. C'est ça qui résonne aussi beaucoup avec ce qui se passe actuellement. C'est que on trouve chez Ovide cette idée qu'il y a une grande loi de la nature et que cette loi continuera avec ou sans nous, avec ou sans l'humanité. Avec, malgré tout, l'idée est très belle aussi que l'humanité, c'est tout de même un miracle. Et que les passions humaines, c'est la sève de tout. Et que donc, ce serait beau que ça continue.
Bon. Grand maximum, 15 minutes de pause. Après quoi, nous nous retrouvons dans la salle 8. Qui peut-être se métamorphosera en salle infinie. Hein ?